Bonjour chers auditeurs, bonjour à tous les amoureux du patrimoine. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes au château de Sully. Ah, Sully, qui ne connaît pas Sully? Sully rappelle Henri IV. Eh bien, aujourd'hui, vous serez étonnés, nous allons parler de Sully, nous allons parler de MacMahon, qui est quand même beaucoup plus proche, et nous allons également parler de Magenta, avec la duchesse de Magenta, par un soleil printanier, un léger vent vivifiant, et surtout, un environnement patrimonial remarquable. Je parle bien sûr du patrimoine bâti qui nous fait face, mais aussi du patrimoine paysager. Sully, c'est un voyage au cœur de l'histoire. C'est un voyage depuis les temps des Romains. C'est un voyage au XVe siècle. Nous sommes donc au château de Sully, reçu par Amélie de MacMahon, duchesse de Magenta. On vous remercie de nous recevoir ici dans ce superbe domaine, mais une première question. MacMahon, Sully, Magenta, vous pouvez nous clarifier un peu cela?
Alors, bonjour à tout le monde, bonjour messieurs. Alors en fait, Sully, ça n'a rien à voir avec le ministre. On a beaucoup de gens qui pensent que voilà, c'est quelque chose à voir avec lui, mais en fait non, rien du tout. Et, ni avec le Sully qui a construit Notre-Dame d'ailleurs, Maurice de Sully. Sully, il y a 7 endroits en France qui s'appellent Sully, et on est Sully. Voilà, il y a Sully-sur-Loire, il y a le vallon de Sully, mais nous, c'est Sully. C'était un endroit qui a été créé par des Romains. Il y avait un général romain qui s'appelait Sullius, qui était basé à Autun. Et la légende veut qu'il était venu par ici et il a lutté contre la dernière résistance contre l'invasion romaine ou l'installation romaine et, avec le chef gaulois Sacrovir. Et on dit qu'il s'est réfugié ici ou que Sullius, en se retournant, il a dit « Ah, mais tiens, quel bel endroit !» et qu'il a créé, une villa, il a peut-être construit une villa. Mais je pense qu'à l'époque, donc il y a 2000 ans, on était dans un marais. Les Romains, souvent, ils mettaient des péages dans les marais pour que les gens puissent avoir un passage à travers et que c'était peut-être plutôt ça l'origine de l'endroit.
Très bien, écoutez, alors Sully, parfait, mais MacMahon, Sully, ah oui, Magenta, c'est pas tout à fait la même chose.
L'histoire des MacMahon, ils sont venus d'Irlande au XVIIIe siècle et par amour, par mariage, ils sont arrivés ils ont épousé l'héritière d'ici. Et c'est comme ça que la famille s'y est installée. Et 100 ans plus tard, donc, c'est l'arrière-grand-père de mon mari, Maurice de MacMahon, qui est devenu président de la République. Et avant qu'il soit devenu président, il a gagné la bataille de Magenta. Et l'empereur Napoléon III en était tellement content qu'il lui a donné le bâton de maréchal de France et le titre de duc de Magenta.
Et c'est le même MacMahon, quand j'étais en cours d'histoire, on me parlait... Sébastopol, que d'eau, oui, est-ce le même?
J'y suis, j'y reste.
J'y suis, j'y reste.
Voilà, et c'est le seul président bourguignon.
Et qui était à l'Élysée? Lui?
Ah oui, il était le premier président d'avoir vécu à l'Élysée.
Bien, et alors par rapport au château, par rapport à ce superbe patrimoine, parce que là nous sommes devant une façade qui est une façade Renaissance, c'est cela?
Renaissance, oui.
Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, au XVIe siècle, le château appartenait à la famille Sautavanne. Et Gaspard de Sautavanne, maréchal de France, était un des intimes de Catherine de Médicis, la reine Catherine de Médicis. Et en fait, c'était une bonne chose parce que ça veut dire qu'il passait beaucoup de temps pas loin d'ici. Donc, lors du massacre de la Sainte-Barthélemy, il n'était pas ici, il était à Paris. Donc, il y a eu moins de dégâts dans la région qu'il aurait pu en avoir. Et lui, je pensais qu'il devait être quelqu'un, ou j'aime bien penser qu'il devait être quelqu'un d'assez orgueilleux. Parce que les façades et la construction qu'il a fait de Sully, c'est quelque chose de sublime et qui est différent par rapport à la plupart des châteaux dans la région. Et même par rapport à des châteaux Renaissance, il y a une qualité de sculpture sur les façades qui est quelque chose d'éblouissant. C'est extraordinaire. Alors moi, ça fait plus de 30 ans que j'habite dedans. 35 ans, plus de 35 ans que j'habite là, et donc moi je peux dire que j'ai l'habitude de trouver ça très beau, je trouve ça très beau, tous les matins je dis « waouh, qu'est-ce que c'est beau !» Mais c'est que quand vous commencez à regarder ailleurs et de connaître un peu plus ailleurs, vous vous dites « ah, mais c'est vraiment très beau et c'est vraiment un endroit exceptionnel !» Et donc moi j'aime bien penser à ce maréchal de Sautavanne qui dans son château a dit « mais moi je suis un grand homme d'État, je suis un grand homme d'État et j'aimerais montrer à quel point je suis quelqu'un d'important » et qui a conçu l'idée de reconstruire la cour et de faire cette façade avec le pont dormant pour rivaliser les châteaux de la cour.
Mais non seulement il y a ce pont dormant dont vous parlez, mais il y a cette entrée majestueuse, très impressionnante, avec les communs de chaque côté. avec une décoration juste avant les douves qui est vraiment exceptionnelle. On a l'impression d'être dans un conte de fées chez vous, écoutez.
Ah oui, pour
Est-ce que vous êtes la fée du logis?
Je ne sais pas si je suis la fée du logis, mais parfois j'ai vraiment l'impression d'être Cendrillon, oui.
J'imagine qu'un château comme cela est fermé au public?
Ah non, pas du tout.
Vous me rassurez.
Non, pas du tout. Ben, c'est dommage d'avoir quelque chose de très beau et de ne pas avoir des gens qui viennent vous dire à quel point c'est beau. Et c'est vraiment très beau. Et les gens, quand ils viennent, ils ne peuvent pas trouver ça autrement que beau. Et ils le disent. Ils disent, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Et ça nous fait plaisir. En dehors de la réalité économique qui fait que nous avons besoin d'aide pour continuer de restaurer.
D'entretenir, parce qu'en restaurer, fait,
on peut plus,
oui,
plus construire, mais ouais. Pour restaurer les choses. Et la venue du public est une très grande aide. Pour nous, c'est un vrai plaisir. Vous savez, quand vous avez quelque chose et les gens l'admirent, et les gens ils disent qu'est-ce que c'est beau. Et je dis oui, je suis très fier. C'est comme si l'avais construit. Je dis oui, je suis très bien, c'est très beau. Hein. Oui, mais en fait, moi, je ne suis pas pour grand-chose.
Et vous êtes ouvert de quand à quand?
Alors, nous serons ouverts toute l'année s'il y avait du monde, mais vous savez, en Bourgogne, il fait un peu frais l'hiver, et à l'intérieur du château, il fait encore plus froid que dehors. Donc, on est ouvert du début avril jusqu'au début novembre. Et nous avons mis en place une histoire de réservation en ligne, donc pour que les gens soient sûrs que quand ils arrivent, ils peuvent être accueillis et ils peuvent être sûrs de venir. Donc, pour voir toutes les disponibilités, l'idéal, c'est de voir en ligne. Vous pouvez venir, mais voilà, au risque de trouver que on avait déjà atteint la quantité.
Et donc on arrive, on regarde, on a peut-être un guide éventuellement.
Ah
ou pas.
Non, vous faites qu'avec le guide.
Ah d'accord.
Et c'est vrai que c'est très beau pour regarder, mais pour moi, pour faire vivre la vie dans un château, vous avez besoin de rentrer
de donner
dans
du
le
sens.
Rêve de quelqu'un. Ouais. Vous avez besoin de rentrer dans le rêve de quelqu'un. Et je dis, chacun de nos guides, ils ont un point d'histoire ou quelque chose qu'ils aiment plus que d'autres. Et je dis, mais l'image que vous avez dans la tête et les rêves que vous avez dans la tête, c'est ça qu'il faut que vous montrez à vos visiteurs lorsque vous leur faites visiter. Ce n'est pas un cours d'histoire. Je dis, les cours d'histoire, les gens, ils peuvent aller à l'université, ils peuvent aller vraiment voir pour comprendre les dates. Je dis, là, c'est une histoire de famille, des familles, et c'est l'histoire avec un petit H et l'histoire avec un grand H. Et voilà.
Et qu'est-ce que l'on voit alors du château?
Alors, quand vous arrivez au château, donc vous avez déjà, comme vous avez dit, la grandiose entrée, mais quand vous arrivez, c'est un peu en pente, donc vous avez l'impression que la maison, elle est, je ne vais pas dire petite, mais nous on dit, bah oui, elle fait un peu petite. Mais en fait, il y a tout un étage que vous ne voyez pas parce qu'elle est entourée de douves. Et ça aussi, je pense que c'est une des choses, il n'y a pas beaucoup de châteaux.
Parce que derrière la façade, il y a encore autre chose. C'est pas simplement un bâtiment.
Non. Et vous découvrez beaucoup de choses parce que vous avez donc la belle façade. Vous rentrez dans la pièce qui est la plus belle pièce du château et qui est la cour à l'intérieur, qui est vraiment quelque chose de toute beauté. C'est sublime. Une cour Renaissance, la plus grande cour en dehors de celle du Louvre. Et je suis allée voir celle du Louvre qui est vraiment énorme, mais je trouve que la nôtre est plus jolie. Et elle est vraiment superbe. Et le château, en fait, il y a quatre ailes qui entourent la cour avec quatre tours du Moyen-Âge qui sont au coin.
Tours du Moyen-Âge qui existent encore à ce jour?
Oui, parce qu'en fait, le château, il y avait les Romains. Alors, je ne sais pas ce que les Romains, ils avaient laissé comme trace, mais le château, il était une forteresse médiévale de défense avec probablement 8 tours tout autour. Et vous voyez Vauban qui avait fait ses défenses avec en étoile, pour que les gens puissent regarder des deux côtés. Alors ça m'amuse parce que je me dis, nous c'est très rare, nous nos tours ils sont mis de la même façon que Vauban. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il s'est inspiré de ça un jour, parce qu'il était bourguignon, donc est-ce qu'il s'est inspiré de ça un jour pour avoir des idées de faire ces fortifications de ce sens-là. Parce que les Romains, eux, ils mettaient leurs tours en carré. Et très souvent, les tours sont en carré. Alors qu'ici, non. Ils sont en biais.
Chers auditeurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes reçus par Amélie de MacMahon, duchesse de Magenta, au château de Sully. Sully, ne vous trompez pas, c'est Sully à côté d'Autun, qui est un magnifique château Renaissance. Est-ce qu'il y a des manifestations particulières qui sont faites? Parce qu'un tel monument, bien sûr, on peut venir le regarder, le visiter, mais ça peut être un support exceptionnel pour faire des manifestations de qualité.
Alors, moi j'aime bien dire que même, tout est de qualité, même les toutes petites visites. Mais effectivement, nous on fait des animations, on tient à faire des animations toute l'année. Au départ, quand on a commencé pour des animations pour les enfants. Mes enfants étaient un peu grands et je me suis dit, tiens, nous, on peut continuer à faire des animations pour les enfants parce qu'il y a peut-être d'autres parents qui n'ont pas le temps d'organiser des goûters ou des petites sorties lors des vacances. Et donc, nous, on a commencé à faire ça. Donc, lors des vacances scolaires, on a toujours une animation amusante pour les enfants. Et donc, ils sont dans un endroit historique. La plupart du temps, ça passe dans une des pièces dans le château où ils en voient au moins une partie. Et je me dis, ça peut les inspirer quand ils vont être un peu plus grands pour venir, pour revoir et puis peut-être pour connaître autre chose de l'histoire, de l'architecture ou de tout ce qui fait le patrimoine. On a des liens avec le lycée militaire à Autun qui a une corniche MacMahon en honneur du maréchal. Et on est très fiers d'avoir pu accueillir leur cérémonie des bérets au mois d'octobre, plusieurs années de suite, dans la cour du château. Et quand vous voyez les jeunes, les jeunes qui reçoivent leur béret, les plus âgés qui viennent et qui font un bivouac ou un petit week-end et puis qui marchent tous en chantant, là ça vous prend au cœur. Donc,
Et un tel patrimoine, c'est pas uniquement un patrimoine bâti. Vous savez que Patrimoine Environnement s'occupe du patrimoine rural, urbain, bâti, non bâti. Là, vous avez un patrimoine non bâti, paysager, très important. Ceci ne doit pas aller sans difficulté. Comment vous gérez cet espace paysager ?
Difficilement. Difficilement. Et je tiens à arriver. Aujourd'hui, mon grand défi, c'est d'arriver à faire des jolis jardins autour que les gens ils peuvent visiter, même s'ils ne sont pas spécialistes en jardin, qu'ils peuvent trouver agréable, mais que j'arrive à faire sans avoir 30 jardiniers. Parce que 30 jardiniers, ça fait beaucoup. Et je suis à fond dans la permaculture. Je suis très intéressée par tout ce qui est la vie du sol et que nous connaissons pas vraiment, en fait. Et je suis inspirée par des jardiniers, spécialement en Angleterre, qui lui dit « Oh, il ne faut pas retourner la terre ». Parce qu'en fait, dans la terre, vous avez déjà tout ce qui œuvre. Il y a des millions de petits organismes qui œuvrent dans la terre. Et à chaque fois qu'on laboure, en fait, on est en train de les tuer et de les faire recommencer tout le travail qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, moi, mon défi dans mon jardin potager particulièrement, c'est d'arriver à faire mieux avec moins. Voilà.
Donc, vous êtes pour la permaculture sur la totalité du domaine ?
On essaye avec plein de choses. Par exemple, dans la basse-cour en ce moment, j'ai mes tondeuses et c'est des oies. J'ai des oies qui sont là l'hiver avec des dindons, avec des pintades. Et les oies, elles tondent. À côté, on a quatre petits cochons et on voit que les cochons, là, c'est très bien si vous voulez justement retourner ou nettoyer la terre parce que vous avez plein d'orties ou quelque chose. Et là, on a des petits cochons. Et on essaye aussi avec des moutons tondeuses, donc nos moutons elles sont en train de tondre de l'autre côté. Et j'avais essayé aussi avec les chèvres dans les sous-bois pour arriver, mais c'est expérimental et je n'ai pas encore trouvé les systèmes parfaits. Ce qui marche très bien, c'est mes poules dans le jardin. Là, elles nettoient très très bien, mais il y a deux poules qui ne restent pas dans la clôture et puis elles viennent m'embêter là où j'ai défaire tout ce que j'ai tout rangé.
Mais vous êtes vraiment en pleine innovation, écoutez, c'est extraordinaire ça.
Oui, ça
et vous passionne. Suivez ça donc de près personnellement.
Ah bah, oui,
vous ne déléguez pas dans ce domaine-là apparemment.
Ah bah, de temps en temps, j'arrive à faire ce que nos hommes qui travaillent dans les vignes ou pour l'entretien du domaine,
les vignes.
À ce qu'ils arrivent à les vignes, nous vivons.
Vous avez des vignes
et vous
faites du vin.
Et nous faisons du vin, exactement.
Du vrai vin.
Du vrai vin qui est très très bon. Si, et on est très fiers, on vient de sortir la première au concours international de Lyon.
Ah, félicitations, qu'est-ce que vous faites comme vin?
Ça c'était du Puligny Montrachet, et on fait aussi du Bourgogne Blanc, un petit peu de Chassagne.
Qui est donc en vente.
Ah, qui est bien sûr, qui est en vente.
Donc on peut, par exemple, si je veux, je peux me présenter à l'accueil.
Absolument.
Et oui. Demander trois bouteilles, etc.
Enfin, si.
On a le droit de dire ça à la radio, je ne sais pas. À consommer avec modération.
Ah, toujours avec modération.
Ah oui, donc en fait, vous avez une vinification, vous avez des professionnels qui viennent vous aider dans ce domaine-là. Comment ça se passe?
Oui, et là maintenant c'est mon fils qui vient m'aider, donc moi j'ai plus le droit maintenant de mettre mes pieds dans la cuverie, c'est lui qui fait ça.
Vous êtes franchement multicarte, hein?
Ah bah, vous savez, les gens, quand vous habitez à la campagne, ils disent « Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites toute la journée à la campagne ?» Nous, on n'a vraiment pas le temps de se demander quoi faire.
Amélie de MacMahon, merci beaucoup. Madame la Duchesse, merci beaucoup. C'était un ravissement de vous entendre et de découvrir en fait toutes les facettes de ce domaine qui est non seulement beau, mais qui est absolument étonnant parce que vous n'êtes pas là simplement pour le mettre sous un cocon, mais pour le faire vivre, pour le faire évoluer et pour le plaisir de tous ceux qui viennent, pour le plaisir des visiteurs, y compris ceux qui aiment les bonnes choses apparemment, c'est même sûr. Merci beaucoup, très bonne fin de journée, puis à très bientôt.
Merci.
Chers auditeurs, c'était un ravissement. Je vous promets que ce n'est pas de la publicité, qu'en fait il y a très peu de châteaux Renaissance encore en Bourgogne-Franche-Comté. Vraiment, je souhaite vous donner envie de venir le découvrir ou le redécouvrir, ceux déjà venus. Ce qui n'a pas été dit au cours de cet entretien, eh bien, le château est construit au fond de la vallée de l'Adrée, affluent de la Roue, à l'extrémité nord du village. Majestueux, vraiment, cité comme l'un des plus beaux de Bourgogne, le château est précédé d'une longue cour bordée de buis, encadrée de chaque côté des bâtiments des communs. Bussy Rabutin et Madame de Sévigné l'ont beaucoup admiré en leur temps. En plan, le château forme un vaste quadrilatère et comporte quatre corps de logis bâtis en retour d'équerre qui encadrent une cour centrale, dont nous a parlé la duchesse, et quatre tours carrées disposées en biais qui occupent les angles. L'ensemble est entouré de douves alimentées par l'Adrée. Vers l'ouest, un pont de pierre qui franchit les douves, dont la balustrade a été garnie d'un décor de boulets et de pyramides de pierre, précède la façade Renaissance. Ce domaine, c'est aussi un grand parc, et des sous-bois où il est agréable de se promener. Sully, c'est bien évidemment l'histoire, l'architecture, les hectares de parc. Mais c'est aussi ce qui est mis à disposition des visiteurs, et notamment des plus petits, faisant de ce patrimoine un lieu important d'éducation artistique et culturelle pour les enfants, mais, il faut bien le dire également, pour les adultes. Il nous a semblé important que cette transmission aux générations futures intègre également la gestion de la nature dont nous a parlé Amélie de MacMahon. C'est en cela que cette visite est intéressante et porte aussi du sens très au-delà de la simple beauté des façades et des diverses salles que l'on peut voir. Il est remarquable que cette orientation du domaine ne soit pas faite dans un but du « faire savoir », « voyez ce que je fais », mais tout simplement parce que c'est la décision éthique de sa propriétaire. En préparation de votre visite, un aperçu de ce domaine est disponible sur notre site patenvbfc.org. Chers amis auditeurs, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à cette émission. C'est le max termine. Nos amis du journal de 18h30 vous attendent afin de vous faire part des dernières nouvelles. Merci à tous de votre attention. Je vous dis à très bientôt.